Aujourd'hui, nous nous retrouvons à l'Université de la Fonderie à Mulhouse, au deuxième étage où se trouve la Kunsthalle, centre d'art contemporain de la ville. L'exposition Algotaylorisme, ouverte au public du 13 février au 26 avril, nous plonge dans le monde des travailleurs du web. Tout commence avec Aude Launay, curatrice de cette exposition. Pendant que la page d'accueil de son navigateur lui disait « Presque n'importe quel endroit peut devenir un bureau. Sortez et travaillez depuis un lieu différent pendant une heure aujourd'hui. » Aude Launay s'est interrogée sur ce statut de travailleur immatériel. Elle a donc vu ce message comme une injonction à travailler plus. De quel droit nos navigateurs se permettent-ils d'interférer avec notre conception du travail ? Dans le passé, l'homme était premier. Dans le futur, le système devra primer. Écrivait Frederick W. Taylor dans Les Principes de l'Organisation Scientifique des Usines, en 1911. De sa gestion scientifique du travail à la gestion algorithmique d'Amazon, Uber ou encore Deliveroo, l'évolution a été principalement technologique, tandis que sur le plan idéologique, on remarque plutôt une continuité. Algotaylorisme regroupe 13 artistes et collectifs qui, tous, opèrent à la jonction humain-machine et ont pris cette interaction comme sujet de recherche et comme outil de production. Comme l'indique son titre, l'exposition s'attache donc à la question du taylorisme algorithmique qui est cette division du travail poussée à l'extrême, réduisant le geste du travailleur à un clic. Algotaylorisme est aussi l'occasion d'examiner de plus près l'idée maintenant relativement répandue que le travail a tendance à ressembler de plus en plus à une pratique artistique au vu du nombre exponentiel de travailleurs indépendants, tandis que les artistes agissent de plus en plus comme des entrepreneurs. Sommes-nous passés de « ne travailler jamais » de Guy Debord à un « travailler sans arrêt » ? L'exposition s'ouvre sur une vidéo de Julien Frégieux. Chaque seconde que nous passons en ligne fait de nous un producteur de ces données, dont se repassent tant et tant d'entreprises, et bien souvent un travailleur à notre insu. Beaucoup de logiciels et applications sont conçus pour extraire la valeur de leurs utilisateurs. Ce fut notamment le cas de SketchUp, qui peu après son rachat par Google en 2006, était présenté par l'entreprise qui visait à organiser l'information à échelle mondiale et à la rendre universellement accessible à tous, comme un programme convivial de modélisation 3D. Déguiser le travail en loisir et la production de contenu en travail anodin, ce fut là le tour de force de ce web 2.0. À l'automne 2018, Le Monde apprenait, éberlué, le dépôt par Amazon 2 ans plus tôt d'un brevet décrivant une cage métallique destinée aux travailleurs, équipée de différents accessoires cybernétiques, qui peut être déplacée dans un entrepôt par le même système motorisé qui déplace les étagères remplies de marchandises. La cage, aux dimensions équivalentes à celle d'une étagère, aurait été transportée de la même manière, soulevée puis acheminée par ces infatigables travailleurs mécaniques, en un paroxysme de la soumission du travailleur humain à la régie algorithmique. Simon Denis en présente ici le brevet sculpté à l'imprimante 3D pour en faire ressortir les éléments saillants, au sens propre comme au sens figuré. Deliveroo, Uber Eats, etc. Leurs sacoches cubiques et colorées fixées au dos des jeunes cyclistes semblent chaque jour plus nombreux dans nos rues. Synonymes de rapidité, de légèreté et de liberté, ces plateformes qui permettent de recevoir où l'on veut la nourriture de son restaurant. Pourtant, lorsque ces forçats du bitume évoquent leurs conditions de travail, on est bien loin du modèle horizontal prôné par les créateurs et du statut d'auto-entrepreneur. Galerie de Delivery applique à l'art cette promesse de disponibilité immédiate. C'est à la fois une exposition collective et une performance à commander en ligne. La livraison se fera par un coursier à vélo avec une sacoche à l'adresse demandée. L'exposition sera installée par le livreur chez vous pendant 30 minutes. Libre à vous d'interagir avec le livreur ou de rester seulement consommateur-spectateur. Sur le site du magazine Capital, nous pouvons lire un article qui vante les mérites de la gestion algorithmique qui permet de réaliser d'importantes plus-values en bourse. Même si laisser un ordinateur se charger d'effectuer des transactions sur le marché n'est pas une solution miracle pour gagner de l'argent, il a cependant certains avantages. En effet, l'ordinateur provoque bien moins d'erreurs qu'un trader et permet d'éviter les émotions fortes telles que la panique ou toute autre faiblesse émotionnelle. Elisa Giardina Papa nous présente l'œuvre Cleaning Emotional Data, qui explore la manière dont le travail et le soin sont restructurés par les économies numériques et l'automatisation. Au cours de l'hiver 2019, l'artiste a travaillé à distance pour plusieurs entreprises nord-américaines qui disent mettre l'humain dans la boucle. Elle a effectué des tâches de taxinomie d'émotions, d'annotation d'expressions faciales et d'enregistrement de son propre visage pour animer des personnages en 3 dimensions. Certaines des vidéos dans lesquelles elle a enregistré ses expressions émotionnelles ont été rejetées car elles ne correspondaient pas parfaitement aux catégories affectives standardisées. Un certain nombre de systèmes d'intelligence artificielle basent leurs algorithmes sur des interprétations erronées des émotions comme étant universelles, authentiques et transparentes. Ces systèmes peuvent servir autant à identifier l'humeur des consommateurs que les citoyens potentiellement dangereux. Mais alors, si les algorithmes ne prennent pas en compte des codes sociaux propres à chaque région du monde, comment peut-on catégoriser toutes les personnes grâce à leur expression faciale? Même si l'exposition Algo-Taylorisme nous montre les travers et les dérives de l'utilisation des algorithmes, ils ont pourtant permis aux designers d'ouvrir d'autres horizons. Imaginez un monde où les créateurs pourraient s'affranchir des contraintes pragmatiques du design pour se consacrer uniquement à l'aspect purement créatif. Clémentine B nous plonge dans le design génératif et nous explique les avantages pour les créateurs. Le monde qu'elle nous décrit précédemment existe et commence à se répandre. Pour cela, il faut commencer à repenser la place de la créature dans le processus de création. Cependant, le design génératif soulève des questions, change les habitudes et parfois dérange même. Ce type de design permet de faire une série ayant tous des produits différents. L'agence Elmwood est un parfait exemple du design génératif. En effet, l'agence Kraft a fait la demande de mettre la personne au cœur du projet. Il n'y a jamais deux employeurs et candidats identiques. Ainsi, Elmwood a voulu créer un système modulable afin que l'identité visuelle puisse être reconnaissable mais personnalisée pour chacun des agences et des candidats. Pour avoir un autre point de vue sur la place de la gestion algorithmique dans nos vies, je vous conseille de lire « À quoi rêvent les algorithmes » de Dominique Cardon, publié aux éditions Seuil. L'auteur vous propose une exploration critique de la manière dont les techniques de calcul façonnent nos sociétés. Grâce à différentes techniques de récupération de données allant du classement d'informations, de la personnalisation publicitaire jusqu'à l'orientation des déplacements, les calculateurs sont en train de s'immiscer de plus en plus profondément dans la vie des individus. La thèse défendue dans cet ouvrage est que la personnalisation des calculs est à la fois l'agent et la conséquence de l'individualisation de nos sociétés.